Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. Plusieurs réactions après la reconduction pour 3 mois de la détention administrative de l'avocat franco-palestinien Salah Hamouri. Nous écouterons le maire de Gennevilliers. Patrice Leclerc dénonce une détention arbitraire et une attaque aux droits de l'homme. Conséquence de la guerre en Ukraine, la Tunisie prévoit d'augmenter la superficie cultivée de blé dur à 800 000 hectares. Le journaliste algérien Hassan El Kadhi, condamné par le tribunal de Sidi Mohamed à Alger à 6 mois de prison ferme, il va faire appel de ce jugement. Un train a déraillé en Iran, au moins 17 personnes ont été tuées. Les élections législatives, premier tour dimanche prochain, entretien dans votre journal avec Anaïs Broud, candidate de la majorité présidentielle dans la deuxième circonscription de Seine-Saint-Denis. Le procès des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et à Saint-Denis, après 9 mois d'audience, place à 3 jours de réquisition. Gros plan dans votre journal sur une librairie bibliothèque mobile entièrement dédiée aux auteurs, artistes et éditeurs africains. Sarcelles accueille l'African Book Truck jusqu'au 14 juin prochain. Nous écouterons Soro Solo, l'un des concepteurs de ce projet. Plusieurs réactions après la reconduction pour 3 mois de la détention administrative de l'avocat franco-palestinien Salah Hamouri en Israël, c'est-à-dire jusqu'au 5 septembre prochain. Il a été incarcéré le 7 mars dernier. La détention administrative est une mesure controversée qui permet à la justice militaire israélienne d'incarcérer des suspects sans accusation formelle. Entretien avec le maire PCF de Gennevilliers, Patrice Leclerc.
Cette décision me met en colère parce qu'une fois de plus, les autorités israéliennes mettent en œuvre des politiques contraires au droit international, puisque Salah Hamouri ne connaît pas du tout les raisons de sa détention, son avocat non plus. C'est une détention arbitraire et qui est reconduite simplement sur le feu du roi, sur un simple jeu d'écriture. Donc c'est une vraie attaque aux droits de l'homme et qui devrait être et qui est reconnue comme telle au niveau international.
Ce que vous dénoncez, c'est ce régime de détention administrative. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que cela représente?
Ce que je dénonce, c'est la colonisation. Et pour sortir les Palestiniens de Palestine, l'État colon israélien, en tout cas sur Jérusalem-Est et la Cisjordanie, arrête de façon arbitraire des Palestiniens, les met en prison sans leur donner les raisons, les garde 1 ou 2 ou 3 mois et peut prolonger ainsi, met les gens en situation d'insécurité dans leur vie. Dans le cas de Salah Hamouri, il est marié, il a des enfants, sa femme est interdite de présence en Palestine, c'est un peu comme si l'Allemagne m'interdisait d'aller en Belgique, c'est-à-dire que la Palestine, c'est pas Israël. Il n'y a aucune raison qu'un pays interdise à un citoyen d'aller dans un autre pays que celui sur lequel le droit international s'applique. Donc il y a vraiment une remise en cause du droit international à travers ces mesures répétées contre Salah Hamouri, mais contre de très nombreux Palestiniens.
Vous déplorez un manque de mobilisation, notamment pour la libération de Salah Hamouri, qui a aussi la nationalité française.
L'État français est en dessous de tout sur cette situation. Elle devrait intervenir avec beaucoup plus de vigueur, notamment le président Macron, pour d'abord tout simplement faire respecter le droit international. On ne demande pas un acte d'exception, on demande qu'il intervienne comme dans tous les pays au monde pour que le droit international soit respecté et que les droits de l'homme soient respectés et que Israël respecte les droits de l'homme comme tous les pays devraient le faire. Et en plus, il s'agit d'un citoyen français, Salah Hamouri, franco-palestinien. Il est citoyen d'honneur de Gennevilliers, d'ailleurs, de ma ville. Et donc, il devrait intervenir pour obtenir sa libération. Je pense d'ailleurs qu'il serait temps que l'État français, comme ça avait été décidé par les parlementaires, demande que l'État français reconnaisse officiellement l'État palestinien, puisque l'État d'Israël ne met rien en œuvre pour assurer la paix dans cette partie du monde et fait tout, au contraire, pour empêcher les Palestiniens de vivre dignement.
Vous évoquiez le manque de mobilisation, une mobilisation qui s'exerce davantage au niveau local et à travers les organisations non gouvernementales aussi.
Oui, on est plusieurs élus en France, maires et municipalités, à avoir Salah Hamouri comme citoyen d'honneur de notre ville. Et plusieurs villes agissent pour que la Palestine soit reconnue comme un État en tant que tel et puisse connaître, et que les Palestiniens puissent connaître la paix. Donc il y a des actes de coopération entre des villes françaises et des villes palestiniennes. Et puis, il y a des actions de solidarité avec Salah Hamouri qui se développent, avec plusieurs maires. Nous avons écrit d'ailleurs au président de la République, qui nous a réécrit un peu mollement d'ailleurs, nous a répondu mollement. Et donc, on va recommencer à lui réécrire pour lui demander d'intervenir avec beaucoup plus de fermeté sur cette situation indigne.
Cette coopération avec les Palestiniens, vous la menez à Gennevilliers et vous la menez concrètement ?
Oui, nous avons plusieurs accords. D'abord, nous avons un jumelage avec la ville d'El Biré. Et là, on travaille à un projet de développement sportif entre El Biré et Gennevilliers. Nous avons une coopération avec le centre social El Boustan à Jérusalem-Est pour aider des jeunes et des femmes à développer des activités socio-culturelles dans cette partie de Jérusalem. Et nous avons aussi des coopérations avec des villages de la vallée du Jourdain pour éviter d'ailleurs que les colons détruisent trop les arbres fruitiers et essayer de travailler avec eux sur une coopération autour de l'eau et de la gestion des déchets. Donc nous avons plusieurs coopérations pour aider nos amis palestiniens.
Et quand vous discutez avec les Palestiniens que vous rencontrez, qu'est-ce qui revient le plus fréquemment dans leurs propos ?
La situation est de plus en plus insupportable. Moi, je dirais que c'est presque des actes de guerre qu'Israël a en direction des Palestiniens. Alors, les Palestiniens ne l'expriment pas tous comme ça. Ceci dit, ils expriment tous que la pression est de plus en plus forte entre les incursions de militaires israéliens dans les territoires palestiniens pour arrêter de manière arbitraire des jeunes, pour tuer. Jamais on a tué autant de jeunes palestiniens que ces dernières périodes. Donc il y a vraiment des choses qui sont de l'ordre de l'insupportable, y compris empêcher les Palestiniens de vivre décemment, puisque y compris le commerce et toutes ces activités de développement économique sont entravées par l'État d'Israël.
C'est une question qui, selon vous, aurait dû être davantage traitée, notamment durant la campagne pour l'élection présidentielle ?
En tout cas, la France de Macron trahit la France d'avant Macron, même si sous Hollande c'était pas terrible, mais en tout cas auparavant, dans le soutien aux Palestiniens et dans le respect des résolutions de l'ONU, parce que la France n'a pas à avoir des positions très très originales. Il faut juste demander à ce qu'Israël respecte les positions de l'ONU et les positions du droit international. Et donc, oui, il faudrait que le gouvernement français, j'espère qu'il y aura un autre gouvernement qu'un gouvernement macroniste, pour qu'il puisse remettre les choses à l'endroit aussi dans le traitement des questions politiques du Moyen-Orient et particulièrement de la Palestine.
Un appel que vous lancez à la France, mais aussi à l'Union européenne.
L'Union européenne a des accords de coopération et coopère, et en même temps devrait faire respecter un peu mieux le droit des Palestiniens. L'Union européenne passe son temps d'ailleurs à payer des choses que les colons israéliens détruisent. Et donc régulièrement, l'Europe verse des subventions et les colons israéliens détruisent soit les réalisations, soit les développements permis par ces subventions européennes. Donc il faudrait aussi que l'Europe dise qu'il faut que Israël respecte les résolutions de l'ONU.
Le maire de Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine, Patrice Leclerc. C'est une conséquence de la guerre en Ukraine. La Tunisie prévoit d'augmenter la superficie cultivée de blé dur à 800 000 hectares. Elle exploite aujourd'hui une superficie de 542 000 hectares. Initiative annoncée par la première ministre dans le cadre d'une stratégie qui vise à assurer l'autosuffisance en blé dur. Il s'agit de permettre de surmonter les défis causés par la guerre entre la Russie et l'Ukraine, notamment en ce qui concerne l'approvisionnement en céréales du pays. Le journaliste algérien Hissan El-Kadi a été condamné par le tribunal de Sidi Mohamed à Alger à 6 mois de prison ferme, sans mandat de dépôt et 50 000 dinars d'amende. Le directeur de Radio M et Maghreb émergent est poursuivi par l'ancien ministre de la Communication, Amar Belimer, à la suite d'un article publié en mars dernier. Il est accusé de diffusion de fausses informations, perturbation des élections et réouverture du dossier de la tragédie nationale. Après l'annonce de ce verdict, Hissan El-Kadi a dit sa colère et sa tristesse et annoncé qu'il fera appel du jugement. Un train a déraillé en Iran. Au moins 17 personnes ont été tuées. Le train a heurté un engin de chantier stationné près de la voie. C'est arrivé à l'aube dans une zone désertique de l'est du pays, à environ 50 km de la ville de Tabas. Sarcelles accueille l'African Book Truck, cela jusqu'au 14 juin prochain. Une librairie bibliothèque mobile entièrement dédiée aux auteurs, artistes et éditeurs africains. À la demande de la municipalité, les personnes impliquées dans dans ce projet interviennent auprès des enfants, des écoles et des centres sociaux dans le cadre d'un plan territorial de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations. Entretien avec Soro Solo, l'un des concepteurs de ce projet.
La librairie nomade ou la librairie mobile African Book Truck, dont l'objet est de faire la promotion, la diffusion des littératures des Afriques arabophones et subsahariennes à travers cette librairie qui peut se déplacer et installer sa librairie dans un quartier, dans un espace, dans une ville pour que les personnes, les lecteurs, notamment les jeunes, puissent accéder à cette littérature afro-africaine, subsaharienne et arabophone qui n'est pas particulièrement bien connue par ici, qui n'est pas particulièrement bien diffusée. Et donc ça c'est consigné dans ce module qui s'appelle l'African Book Truck. Et c'est un projet qui a été initié par l'association Oiseau Indigo qui a également créé le festival Parole Indigo, bien entendu festival de littérature pour la rencontre des éditeurs et des créateurs, des auteurs africains de l'Afrique subsaharienne et de l'Afrique arabophone. Voilà l'événement tel qu'il est présenté. Et va s'installer pendant une grosse semaine dans la ville de Sarcelles à travers des rencontres dans les écoles primaires pour faire découvrir la littérature enfantine à ces jeunes lecteurs et à travers une grande place publique pour que les adultes, donc tout public, les enfants, les parents, les gros lecteurs ou les petits lecteurs puissent se retrouver pendant cette semaine dans la ville de Sarcelles. Et le point fort de cet événement, c'est le samedi 11 juin où, sur la place publique, l'African Book Truck va s'installer pour proposer ses livres à lire avec un espace pour pouvoir consulter les livres, pour pouvoir les lire directement et de poser des questions sur l'auteur, sur le sujet du roman ou de la fiction ou du documentaire, etc. Et le tout accompagné de musique avec un grand groupe sénégalo-francophone qui s'appelle Gif Gif Boubès.
Soro Solo, l'un des concepteurs du projet d'African Book Truck à Sarcelles, il répondait à Loïc Barrière. Le procès des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis, après 9 mois d'audience, place à 3 jours de réquisition. Les représentants du parquet national antiterroriste vont démontrer quelles sont selon eux les responsabilités de chacun des accusés, jugés depuis le 8 septembre devant la cour d'assises spéciale de Paris. La parole est à l'accusation dans ce procès qui juge Salah Abdeslam et 19 co-accusés après ces attaques terroristes qui ont fait 130 morts et des centaines de blessés, les pires attentats jamais perpétrés sur le sol français. La semaine prochaine, le procès arrivera dans sa dernière phase avec les plaidoiries de la défense et le verdict est attendu le 29 juin prochain. Les élections législatives, premier tour dimanche prochain, entretien avec Anaïs Broud, candidate de la majorité présidentielle dans la deuxième circonscription de Seine-Saint-Denis.
Moi, je suis arrivée en 2014 à Saint-Denis dans le cadre de mes études. C'est la ville de mon premier engagement en politique, d'abord au local, en Seine-Saint-Denis, puis au Modem jeune, où j'ai eu des responsabilités. J'ai été vice-présidente des Jeunes démocrates pendant 4 ans. Moi, je travaille à la Fédération hospitalière de France, c'est l'organisation qui défend et qui représente le secteur public de la santé, donc à la fois l'hôpital public, les EHPAD et le secteur du handicap. J'ai été candidate aux élections municipales en 2020, aux élections départementales en 2021, toujours à Saint-Denis. Et j'ai créé une association politique locale qui s'appelle 100 000 citoyennes et qui s'est notamment battue pour avoir plus de places en crèche sur notre territoire.
Alors, quelles seront vos priorités si vous êtes élu député?
C'est d'abord l'enfance, la jeunesse et la réussite éducative. À Saint-Denis, sur la petite enfance, donc historiquement, c'est quelque chose que j'ai défendu. Le fait que les parents puissent trouver une solution de garde, nous, on propose un droit opposable à la solution de garde. Ce qui veut dire qu'aucun parent ne pourra plus rester sur le carreau. On renforcera, donc l'État renforcera les moyens aux villes et aux départements pour qu'ils puissent augmenter le nombre de places et d'accueil. Et si ces collectivités ne sont pas en capacité d'apporter une solution de garde aux parents, l'État compensera par une aide financière. Les autres priorités sont bien sûr la réussite éducative. Il y a un gros besoin dans nos écoles. Il y a eu plusieurs avancées pendant le quinquennat. Je pense notamment à l'investissement, aux moyens investis dans établissements scolaires. Je pense au dédoublement des classes, notamment en CPCE1 en éducation prioritaire. Il faudra aller plus loin. On va continuer à dédoubler des classes jusqu'au CM2, renforcer les moyens, y compris en revalorisant le salaire des enseignants, en ouvrant aussi leur recrutement et en renforçant la formation des enseignants dans notre département, dans nos villes. C'est très très important parce qu'on a un problème que beaucoup de parents connaissent à Saint-Denis-Pierre-Cité-Lutaneuse, qui est le non-remplacement des profs absents. Et c'est quelque chose auquel on doit absolument mettre un terme.
Aujourd'hui, la France vit une crise de l'hôpital. Qu'est-ce que vous proposerez notamment pour les habitants de la Seine-Saint-Denis qui sont confrontés eux aussi aux déserts médicaux ?
Sur cette question, je suis bien placée pour le savoir. Il faut déjà être conscient qu'un gros rattrapage a été effectué ces dernières années, notamment autour du Ségur de la Santé. On a revalorisé de 180 euros le salaire des soignants. On a réinvesti dans l'hôpital public. Alors c'est un rattrapage parce que malheureusement le secteur public de la santé avait été un peu laissé de côté pendant plusieurs décennies. On va continuer à renforcer l'investissement et faire aussi en sorte que des spécialistes dont on manque dans nos villes puissent avoir envie de s'installer en facilitant donc leur installation et aussi je pense par des incitations. On pourrait imaginer que on paye par exemple à des étudiants en soins leurs études contre une installation pendant un certain nombre d'années dans nos villes.
Que proposez-vous sur le pouvoir d'achat ?
Sur le pouvoir d'achat, le gouvernement a protégé à la fois les commerçants, les restaurateurs, mais aussi nos emplois pendant la crise du Ségur. On continuera de le faire face à la hausse des prix, notamment, qui est liée au conflit en Ukraine. On a déployé un bouclier tarifaire sur les prix de l'électricité et de l'énergie. On a fait voter aussi un chèque inflation, un chèque alimentaire qui doit permettre de compenser la hausse du prix sur les dépenses du quotidien. Et c'est vraiment une priorité qui est la nôtre, de protéger le pouvoir d'achat des classes moyennes et des classes populaires.
Anaïs Braud, candidate de la majorité présidentielle dans la deuxième circonscription de Seine-Saint-Denis, elle répondait à Loïc Barrière. L'Algérie et la Tanzanie se rencontrent ce mercredi soir pour le deuxième match des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, coup d'envoi 18h. Lors de la première journée des phases éliminatoires, l'Algérie a remporté une victoire contre l'Ouganda, 2-0. Fin de cette édition. Un très grand merci pour votre fidélité. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.